Donc je m'appelle, voilà, c'est ça, je m'appelle Vincent Guillaume, j'enseigne aussi à l'Université de Poitiers. Et contrairement à mes deux éminents amis, je ne suis pas, moi, angliciste, même si je parle un peu anglais. Et donc, si je cite un peu le texte, évidemment, ça sera uniquement en français et dans la traduction publiée à la Pléiade. Donc, je crois que vous avez compris que Jules César est à l'évidence une pièce politique. Déjà, pour une première raison très évidente qui a été très bien soulignée auparavant, la pièce reprend en effet l'un des moments les plus fameux de l'histoire de Rome. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus fameux dans l'histoire romaine que l'histoire de Jules César, au moins parce qu'elle a été popularisée chez nous par une bande dessinée fameuse. Et elle raconte précisément l'assassinat donc de Jules. Non, c'est pas grave. Donc elle raconte les circonstances de l'assassinat de Jules César, qui est un moment dans l'histoire de Rome, qui est vraiment un tournant qui fait basculer Rome du régime de la République à celui de l'Empire. L'Empire, d'ailleurs, au sens strict, ne survenant qu'après César, par une loi qu'on appelle la loi d'Antoine. César n'a occupé dans la République romaine, au sens strict des institutions romaines, que la position du dictateur, qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons dictature aujourd'hui. La dictature était au départ dans l'esprit des institutions romaines, et pour simplifier un peu, la concentration du pouvoir dans les mains d'un magistrat, de façon temporaire, dans les cas où la République était extrêmement en danger, notamment lorsqu'il y a des dangers extérieurs. Ça n'a pas été toujours le cas. Il y a un dictateur très célèbre qui s'appelle Sylla, qui est un grand réformateur de Rome, et qui lui a fait une dictature pour moderniser Rome et notamment ses institutions. Et Sylla passe dans notre littérature politique pour un exemple de bon fondateur de République ou d'instigateur de bonnes lois. Donc, rappelons-nous que dans l'histoire de Rome, l'idée de dictature n'est pas nécessairement une idée négative. Néanmoins, cette transformation politique donc, de la République à l'Empire, comme on sait, elle est en quelque sorte une des matrices de la pensée politique occidentale, au moins à partir de la Renaissance et pendant toute l'époque moderne, et jusqu'au moins à la Révolution française. Il n'est pas innocent de se rappeler quand même que si Robespierre s'adjoint deux amis pour former un triumvir, c'est évidemment par référence à la République romaine. Dans ce moment donc, de l'histoire de Rome, en fait, se cristallise l'une des principales difficultés que doit affronter la pensée politique, à savoir la difficulté qu'il y a à concilier la liberté des citoyens, qui est garantie par les droits qu'ils possèdent, les droits de cité, et en même temps un autre aspect de la vie publique, qui est la nécessité d'un pouvoir coercitif qui rend... qui assure que tous vont respecter la loi. Ça, c'est le fond du problème politique qui va articuler toute la pensée politique en Occident après le Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, la question du politique ne se pose pas de cette façon du tout. Elle se pose dans un régime chrétien de pensée et le pouvoir des rois dérive de manière sacrée de questions théologiques. Mais à partir du moment où il y a fondation des États-nations modernes, à la toute fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, pendant les guerres de religion, il va s'agir d'essayer de penser des fondements laïcs de l'État, et à ce moment-là, la Renaissance, qui est férue d'antiquité, va retrouver dans ce moment de l'histoire de Rome la difficulté conceptuelle essentielle qu'elle a à penser. Comment concilier d'une part la liberté nécessaire des citoyens, et en même temps de l'autre côté, la nécessité d'un pouvoir qui empêche le désordre dans les mœurs. C'est à peu près la situation qu'on trouve quand on regarde un petit peu quel est le problème de César. Il va faire des conquêtes, comme vous savez, dans le monde entier, connu alors. Et quand il revient à Rome, le Sénat est corrompu. Le Sénat, c'est l'assemblée qui fait la loi, c'est l'assemblée des citoyens de Rome, mais le Sénat est corrompu. Et le peuple de Rome demande des réformes pour restaurer un régime légal plus fort, d'où la dictature. La question est évidemment, en termes de philosophie politique, jusqu'où peut-on concentrer le pouvoir de façon à garantir le respect de la loi, mais sans pour autant priver le peuple de sa liberté. Suis-je clair ?
Oui. Oui.
Alors, de ce point de vue, l'histoire de Rome va être une matrice de pensée, comme je vous le dis, pour toute la philosophie politique occidentale. Bon, des exemples extrêmement connus sont par exemple Machiavel, qui écrit un discours sur les décades de Tite-Live, les 10 premières décades de Tite-Live, qui est donc une manière de faire de l'histoire romaine pour essayer de comprendre l'histoire de son temps. Je pense aussi que, par exemple, le discours de la servitude volontaire, donc Machiavel, c'est le début du XVIe siècle. Le discours de la servitude volontaire de la Boétie, c'est le milieu du XVIe siècle. Donc c'est un peu antérieur à la pièce de Shakespeare. Pareil, au mi-temps précis du discours sur la servitude volontaire, la Boétie réfléchit justement sur l'assassinat de César, sur le passage de la République à l'Empire. Montesquieu aussi a écrit des considérations sur la grandeur et la décadence des Romains, et si vous regardez le discours du contrat, le contrat social de Rousseau, dans le livre 1, chapitre 2, l'allusion aux despotes est clairement une allusion aux despotes antiques et principalement à la figure des empereurs romains, qui trouve son paroxysme dans la figure de Néron, hein, qui est le despote mangeur de peuple. Mais là, on n'est plus sur la brisure historique. Dans le cas de Néron, on est clairement dans une figure outrancière où il ne fait pas du tout de problème de juger, de savoir si on a affaire à un despote ou pas. C'est dire que la proposition qui m'avait été faite d'essayer de situer comme ça la pièce de Shakespeare par rapport à des questions politiques est une question extrêmement difficile à régler, parce qu'à cause de son contenu, elle convoque à peu près toute la philosophie politique occidentale. Il n'est donc pas question de comparer la pièce de Shakespeare à des théories politiques plus ou moins contemporaines, parce que l'objet de la pièce de Shakespeare n'est évidemment pas de régler de manière théorique un débat politique. Autrement dit, il me semble que l'intérêt politique de la pièce de Shakespeare ne réside pas dans une solution théorique qu'elle fournirait au problème que j'ai énoncé précédemment. La question est donc quel pourrait être cet intérêt politique, et notamment pour nous. Je ne peux pas spéculer personnellement sur l'intérêt politique ou les intentions politiques que pouvait avoir Shakespeare, parce que, mais peut-être mes collègues Yami vont m'aider, mais je crois qu'on ne peut rien dire là-dessus, strictement rien. Par ailleurs, il se trouve qu'on ne peut pas du tout ici interpréter la tragédie de Shakespeare par rapport à un contexte politique de l'Angleterre d'alors qui serait une révolution ou je ne sais quoi, puisqu'on est dans le règne d'Elisabeth qui passe, moi j'en suis pas spécialiste du tout, mais qui passe pour un règne de paix qui favorise plutôt la culture et les arts, en tout cas par rapport aux révolutions sanglantes qui vont suivre. Voilà. Mais je dis ça sous toute réserve. En tout cas, il me semble que par rapport en tout cas à l'intention d'un auteur, c'est absolument intranchable, et il me semble aussi que par rapport au contenu même de la pièce, le but de la pièce, ou son caractère politique, n'est pas nécessairement là. Donc je vais maintenant essayer de réfléchir au caractère politique possible de la pièce, précisément pour nous. Donc je n'hésite pas à la décrocher de son contexte, et à essayer de penser, en la lisant, qu'est-ce que je peux trouver, moi, comme aspect politique là-dedans. Alors, il me paraît qu'à ce propos, une des choses qui m'ont frappé à relire avec assez de précision cette pièce de Shakespeare, c'est que l'action dans la pièce, qu'on appelle la fable, avance d'une manière particulière en ceci, c'est que la langue, mais je veux dire ici la langue en tant qu'elle est parlée, la parole, l'acte de parler, est à la fois créateur d'un monde, institue le monde dans lequel ça parle, et en même temps, en instituant ce monde, détermine les conduites qui vont s'y tenir. Alors, pour essayer de le montrer, je vais prendre quelques exemples, peut-être je vais lire aussi un petit peu des passages, ou rappeler des passages que les amis ont lus auparavant. Vous vous souvenez sans doute qu'au tout début, deux tribuns demandent au peuple de Rome, à des simples romains, de ne pas célébrer le triomphe de César. Ces gens sont dans la rue, attendent de faire cette fête, et les deux tribuns en question s'adressent à eux, leur parlent, leur tiennent un certain discours, et l'effet de ce discours, c'est de faire rentrer les gens chez eux. Là, on a, au tout début de la pièce, comme dans son amorce, alors évidemment, vous me direz, ça fait un peu scène d'exposition, on sait qu'on est à Rome, on sait que Pompée a perdu la guerre et que César va faire un triomphe, mais ça, tout le monde le sait. Donc, c'est pas du tout nécessaire de le dire pour le public d'alors. En revanche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on montre ici, dans le spectacle de théâtre? On montre que la parole de ces deux tribuns, de ces deux pompéiens, est suffisante pour faire rentrer les gens chez eux. Il n'est pas besoin d'user de force. Et il me semble qu'à de nombreuses reprises dans la pièce, j'ai pas essayé de faire un relevé systématique, mais à de nombreuses reprises dans la pièce, on se retrouve dans cette situation. Je pense notamment à un moment clé dans l'évolution de l'action, c'est le moment où il s'agit de savoir si César va aller au Capitole ou pas. S'il reste chez lui, la pièce s'arrête. Donc je me mets dans l'acte 2, scène 2. Comme on a dit tout à l'heure, au début de cette scène, la femme de César, Calpurnia, dit à son mari qu'elle a fait un rêve affreux, et normalement elle ne croit pas aux augures, mais il lui semble que cette fois-ci c'est grave, et qu'il faudrait surtout s'abstenir de sortir de la maison. Donc elle s'exprime dans ces termes, je le dis en français, « César, je ne me suis jamais fié aux augures, mais là il m'effraie. Quelqu'un dans nos murs, outre les choses que nous avons entendues et vues, raconte des scènes horribles vues par les gardes. Une lionne a mis bas dans les rues, des tombes ont bâillé et recraché leurs morts, de féroces guerriers, pardon, de feu bataillent sur les nuages, rangés par escadrons en formation de guerre, et le sang pleuvait sur le Capitole, le fracas du combat déchirait tout l'espace, les chevaux hennissaient, les mourants gémissaient, et des spectres hurlaient et piaillaient dans les rues. Ô César, ces choses dépassent tout ordinaire, et vraiment, elles me font peur. » Donc là, il y a un certain nombre de réalités qui sont convoquées dans le discours, et qui tentent à décider César à rester chez lui. Et c'est ce qu'il fait. Dans un premier moment, il cède. Lui qui dit qu'il n'a jamais peur, lui qui dit qu'il n'écoute pas les augures, etc., reste chez lui. Peu après, dans la même scène, toujours, Décius arrive, il fait partie des conjurés, et il est précisément envoyé par les conjurés pour décider César à sortir de chez lui et à bien se rendre là où il doit. Et alors on raconte à Décius le rêve de la femme de César, et Décius répond ceci. « Voilà un rêve interprété tout de travers. C'est une vision riche et radieuse. Votre statue crachant par tant de bouches le sang où tous ces Romains se baignaient en souriant signifie que de vous, l'auguste Rome sucera un sang revigorant dont les grands hommes se disputeront les couleurs, les empreintes, les reliques, l'emblème. Tel est le sens du rêve de Calpurnia. » César répond, et pleine de bon sens est votre explication. Et seulement ensuite, Décius va donner des arguments politiques pour que César sorte de chez lui, se rende au Sénat et accepte le pouvoir de la dictature qu'on va lui proposer. Voilà. Je signale juste ça pour essayer de voir que dans ces passages, on a affaire à un mode de progression de l'action dramatique qui est assez particulier. dans beaucoup de tragédies françaises, il y a des motifs d'action que connaissent les personnages. Ils veulent se venger, soit. Ils détestent quelqu'un, mais les mobiles sont clairs. Ils ont des mobiles. Ils ont un caractère, quelquefois les mobiles rentrent en conflit avec les caractères. Il y a plusieurs mobiles, si bien qu'on ne sait pas trop lequel choisir, c'est ce qui fait tout le délice tragique de la situation. Mais la parole dramatique ne sert qu'à raconter quel est le contexte, par exemple quelle bataille s'est produite, quel crime a été commis, quelle est la raison qu'on a de se venger. Et alors, évidemment, le langage sert à véhiculer au spectateur dans une instance seconde, comme on dit parfois quand on est un peu prétentieux, les motifs d'action qu'on a. Et alors, évidemment, on ne le fait pas en vrai sur le plateau, parce qu'on ne peut pas faire toute une guerre sur le plateau, mais on dit qu'on le fait. Et comme dit l'abbé Daubignac, ça suffit au théâtre, parler, c'est agir. Mais ici, il se passe tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la parole du personnage dans le cadre de la fiction transforme le monde de la fiction, le rend autre, et détermine les actions des autres personnages. Et il me semble qu'il n'y a pas tant de discours dramatiques qui fonctionnent de cette manière. Alors, il me semble, mais ça a été déjà évoqué aussi bien par M. Piou que par Mme Adam, que aussi bien le discours de Brutus, mais encore plus exemplairement sans doute le discours d'Antoine à la plèbe, relève de ces faits de langage qui servent à faire progresser le discours dramatique. C'est un acte de discours pour Brutus, un, que de prendre la parole en premier. Le contenu de ce qu'il dit tend à déterminer néanmoins le contenu de ce que pourra dire Antoine derrière lui, ferme en quelque sorte les possibles politiques quand il s'adresse au peuple de Rome. Et tout l'art d'Antoine derrière, c'est que par rapport au petit paragraphe, petite somme de vers développée par Brutus, il va falloir développer un trésor d'énergie rhétorique derrière pour arriver à transformer la situation politique. Mais comment est-ce qu'Antoine va transformer la situation politique? Comme Leïla Adam vous l'a dit, en changeant le sens du cadavre qui est là devant nous. Si j'ai bonne mémoire, dans ce moment-là de la pièce, César est assassiné. Casca est le premier qui porte le coup de couteau. Et les autres, conjurés, de manière symbolique, plongent également leur épée dans le corps, ce qui est une manière symbolique d'être solidaire. Comme aujourd'hui on vote, et ben eux, ils sont solidaires, ils votent avec l'épée. C'est-à-dire que le dernier qui va tremper son épée dans le sang, César est déjà mort, mais peu importe. Mais du moment qu'il a le sang sur les mains, il est partie prenante de l'action politique. Voilà. C'est un acte à la fin plus symbolique. Le seul acte vraiment meurtrier, du point de vue biologique, c'est celui de Casca. Et ça me paraît important. Je vous verrai pourquoi tout à l'heure, c'est celui de Casca qui est important. Mais alors, dès lors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que César a été jeté à terre, qu'il est massacré et que des gens ont les bras pleins de sang. Quelle est la réaction du peuple de Rome? C'est de courir affolé partout et hébété. C'est-à-dire qu'au moment où Casca porte le coup fatal, qu'est-ce qu'il dit? Main parlée. C'est-à-dire que, alors vous vous souvenez, comme on a dit tout à l'heure, juste avant l'assassinat, il y a un prétexte qui est donné, on rentre dans un discours avec César, on veut obtenir l'affranchissement de, comment s'appelle-t-il déjà
Metellus Cimber. Voilà.
Et alors, César est celui qui prétend, à ce moment, ne jamais se laisser troubler par le discours. Il prétend être celui sur qui le discours n'agit jamais. Il se prétend dans le réseau des métaphores du texte, mais là, M. Piou pourra me contredire si c'est une bêtise, aussi pur que les étoiles fixes, et même que la plus fixe des étoiles fixes, à savoir l'étoile polaire. Celui qui ne variera pas. Autrement dit, dans toute la pièce de Jules César, César est celui qui reste sourd au discours. Il ne veut pas prêter l'oreille à l'oracle qui lui dit de se méfier des îles de Mars. Il ne veut pas considérer le billet écrit, c'est-à-dire que même si ça ne va pas avec les oreilles, on pourrait essayer de lui parler avec les yeux en lui écrivant un billet. Même le billet il ne l'accepte pas. Et peut-être que la chute de César est simplement due à ceci, c'est qu'il est retranché du débat politique. Et ce retranchement, ben voilà, ça va être tranché. Quoi. Enfin, oui. Donc, à partir du moment où on constate que César demeure inflexible ou incorruptible face au travail possible du langage, alors, le texte dit, la main parle. Et le coup est donné. Et César est mort. Et là-dedans, il n'y a pas de réalité politique propre. Ce qui se produit, c'est une espèce de dilution du politique, puisque tout le monde court dans tous les sens, hébété, et chacun sait ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans un monde humain. On est dans un monde de la frayeur où plus rien ne se passe. Et il faut que quelque chose se retrouve à être dit pour qu'il y ait restitution du politique. Alors, premièrement, il faut que Brutus monte à la tribune pour parler et justifier ce qui s'est passé. Et puis, le justifier d'une certaine façon. Et tout le travail de Marc-Antoine derrière Brutus, quand il monte à son tour à la tribune, c'est par la parole et uniquement par la parole, de transformer le sens total de la réalité dans laquelle il se trouve, notamment en transformant le sens de ce que c'est que ce cadavre. Et arriver à faire parler le cadavre. Et je dis bien faire parler le cadavre, comme Leïla Adam l'a dit. Il y a une jolie métaphore aussi que je trouve à cette fin du texte, c'est qu'il dit que parmi tous les trous qui percent le corps de César, il faudrait qu'il y ait des langues qui se mettent à parler. Mmh. Mais elles y sont, les langues qui se mettent à parler. En fait, toutes ces langues qui se mettent à parler, c'est juste celles d'Antoine. Mmh. Et c'est pourquoi je trouvais très légitime de dire que là, pour le coup, il y a aussi une première espèce d'effet de spectralité qui naît de la parole d'Antoine à propos de la personne de César, alors qu'on n'est pas encore dans un vrai spectre. Dans le spectre qui surgira, enfin, qui sera, voilà, etc. Alors, on est là, évidemment, j'ai essayé de me mettre là aussi dans la pièce, parce qu'il me semble qu'on est là à sa charnière, hein, le meurtre de César, je ne sais pas au nombre de vers près, mais ça me paraît être à 5 ou 6 vers près, à peu près exactement le mi-temps de la pièce. C'est le point, c'est peut-être aussi son point aveugle, au sens où c'est son point où quand la main parle, bah, plus rien ne parle. Et peut-être on pourrait relire toute la structure d'action dramatique à partir de cette constatation que tout dépend dans l'avancée progressive de l'action dramatique de comment ça parle dans cette pièce et que ce sont essentiellement des actes de langage qui font les actes politiques. Le meurtre, le coup, étant en définitive qu'un moment bref, silencieux, autour duquel les choses s'organisent. Avec une parole relativement réglée rhétoriquement jusqu'avant ce meurtre, et une parole qui va se dérégler peu à peu, en même temps que les relations humaines vont se dissoudre après ce meurtre. Je ne peux pas faire l'analyse stylistique précise de la chose, parce que j'en suis absolument incompétent, et je peux essayer de faire une hypothèse ici par rapport à ce que je lis en français. Bon, même quelquefois, évidemment, je contrôle un peu l'anglais, je sais un peu l'anglais quand même, je ne veux pas exagérer. Mais il me semble que la manière d'écrire les répliques après le meurtre n'est plus semblable et le tissu, les modes rhétoriques qui sont mis en jeu après sont plus les mêmes. Je pense notamment, par exemple, quand tout le monde s'engueule. Parce que tout ce bon monde qui veut assassiner César pour maintenir la liberté des Romains se retrouve situé dans deux camps que la pièce va nous exposer tour à tour, c'est-à-dire on voit un petit coup les blancs, un petit coup les noirs, comme aux échecs, puis après un petit coup les blancs, un petit coup les noirs, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait immédiatement après ça? Dans chaque camp, on s'engueule. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que l'opposition entre les uns et les autres constitue des camps solidifiés qui seraient organisés. Et on pourrait dire qu'il pourrait y avoir scission dans l'État, et il y aurait peut-être à Rome deux empires qui pourraient se former, un en Orient et un en Occident. Non. La dissolution du politique est en même temps une dissolution de la parole et est en même temps une dissolution, dans cette dissolution de la parole, radicale de toute espèce de relation d'amitié possible. Les meilleurs amis du monde commencent par s'opposer. Et ça, c'est d'abord aussi restitué dans la pièce par des faits de langage. Voilà. La manière qu'on a de parler est en quelque sorte la manière qu'on a de prendre le pouvoir et de le garder, et quand on ne sait plus parler d'une certaine façon, quelque chose survient comme pire peut-être que la tyrannie. Je n'ose pas dire ici le mot d'anarchie parce qu'il est connoté aujourd'hui pour nous, mais prenons-le au sens grec, c'est-à-dire le moment où les relations sociales n'ont absolument plus de principe d'ordre qui les organise. Les meilleurs amis du monde commencent à s'opposer. Ceux qui ont vaincu, non pas ceux qui ont vaincu, Octave,
Le
Antoine,
triumvirat, quoi.
voilà, Octave, Antoine et
Triumvirat. Lépide.
Lépide, une fois qu'Antoine a si bien parlé, quand même la première chose que font ces gens, c'est de se dire, et après avoir notamment convaincu le peuple de Rome en indiquant le testament de César, qui fait don de 75 drachmes à chacun, qui fait don à la ville de ses jardins, de ses vergers, etc., de propriétés terrestres. La première chose qu'on dit, c'est, bon alors, comment on se partage le gâteau à trois? C'est ça la première chose. Et entre eux, ils sont pas foutus d'organiser quelque chose à ce niveau-là qui serait comme une communauté politique réglée, puisque dès qu'il y en a un qui part, Lépide, les deux autres disent, oui, mais de toute façon, lui, c'est le bêta de la bande, donc dès qu'il aura le dos tourné, on va lui piquer sa part et on se la repartagera entre nous. C'est-à-dire qu'on est dans une telle dissolution du politique que ce que, ici, la pièce nous donne à voir, c'est que, là, pour le coup, l'homme est un loup pour l'homme. Vous connaissez cette célèbre formule qu'on attribue à Hobbes, enfin qu'on trouve chez Hobbes, mais qui en fait est un topos qui traîne dans la littérature politique de l'Antiquité bien avant. Hein. Voilà. Donc, c'est pourquoi il me semble que, en un certain sens, la pièce de Shakespeare n'est évidemment pas que ça, mais c'est aussi une tragédie de la parole. Elle nous indique au moins ceci, c'est que parler en public est un acte politique. Peut-être même que le discours est la seule chose qui fait exister notre monde comme monde politique. Je voudrais ici essayer de suggérer une petite distinction conceptuelle que je dois au philosophe allemand Hegel. Il y a deux mots pour dire que quelque chose est vrai. Ou réel chez Hegel, on peut dire wirklich en allemand ou real, on peut dire Wirklichkeit ou Realität. L'idée est un peu de distinguer parmi les existants des existants qui simplement existent et puis des existants qui sont réels. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si ça existe, c'est réel puisque ça existe. Alors essayons de penser une différence. Ça existe, mais après tout, ça existe peu. C'est là juste pour assouvir un peu ma soif. Et en un sens, ça n'est pas réel parce que ça ne réalise rien. L'idée de Wirklichkeit, on pourrait la traduire en français par l'idée d'effectivité. Et bon, je ne vais pas rentrer plus avant dans la pensée de Hegel, mais qu'est-ce qui donne aux choses de l'effectivité politique dans la pièce de Shakespeare? Il me semble qu'essentiellement, c'est la langue, c'est la parole. C'est la parole qui transforme le sens du cadavre de César. Et ça, c'est assez original comme mode de progression dramatique. Tout le théâtre ne fait pas ça. Donc, il se trouve que pour le coup, ce qui me paraît être l'aspect le plus intéressant pour moi, en tout cas, de la pièce de Shakespeare au plan du politique, c'est ça. C'est-à-dire, non pas, et en aucun cas, la solution politique ou la solution théorique de philosophie politique qu'elle proposerait à ce problème que je posais d'emblée, qui était bon, la liberté des citoyens d'un côté, mais aussi une police pour faire régner l'ordre. Et ça rentre en conflit. Elle ne règle rien de ça, mais elle nous manifeste quelque chose. Elle nous manifeste peut-être qu'est-ce que c'est que la condition politique en elle-même, c'est d'abord d'être un être parlant. Ce faisant, d'ailleurs, on n'est pas loin de l'esprit des Grecs, hein. Parce que nous sommes des animaux politiques, pardon, justement parce que nous parlons. Et en quelque sorte, c'est la manière qu'on a tissé le langage qui fait exister le monde. Ça, c'est pas grec. Chez les Grecs, chez Platon, vous savez qu'ils détestent les sophistes, justement parce que ce sont des rhéteurs, des menteurs, qui utilisent le langage comme un mensonge, etc. On masque le monde. Dans la tragédie de Shakespeare, il me semble que non. On parle, on fait exister le monde. Ça, c'est différent. Je pense qu'il y a, du coup, peut-être des exemples qui peuvent nous aider à comprendre ça J'ai pensé notamment à une chose en littérature, c'est le roman que vous connaissez sans doute, le 1984 de Orwell. Dans cette cité d'Océania, qui figure une dictature, ça se tient d'une langue qu'on appelle le novlang en français, newspeak en anglais, qui est une espèce de perturbation de la langue anglaise, sa brisure, son appauvrissement, qui permet de maintenir les gens dans une certaine condition. C'est en même temps une énorme perversion de la langue, puisqu'un même mot peut avoir un sens exactement contraire en novlang, selon qu'il s'applique aux membres du parti et aux ennemis du parti. Donc c'est une perversion radicale de la langue. Dans le même sens de réflexion, je voudrais rappeler un travail complexe, confus, qui mélange des plans différents, qui est à la fois biographique, philologique, etc. C'est le travail de Victor Klemperer sur la langue des nazis dans le Troisième Reich. Je ne sais pas si vous connaissez ce volume, qui a pour titre en français LTI, la langue du Troisième Reich, dont j'extrais une citation que je vais vous lire. Donc, Klemperer écrit ceci. Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l'hitlérisme? Étaient-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels? Leurs déclarations à tel ou tel sujet? Leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme? Non, incontestablement. Car beaucoup de choses demeuraient incomprises par la masse où l'ennuyait, du fait de leur éternelle répétition. Non. L'effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux. Il ne fut obtenu par rien de ce qu'on était forcé d'enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Pour dire deux mots sur Klemperer, c'est un philologue allemand, c'est un spécialiste de l'histoire de la littérature française, qui a beaucoup travaillé sur la littérature française du 18e. Philologue allemand, il se retrouve, après des péripéties, je résume, à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme il a épousé une femme arienne, il n'est pas déporté tout de suite. La décision de déportation sera prise 3 jours avant le bombardement de Dresde. Il se cache, et c'est quelqu'un qui a vécu toute la guerre à Dresde pendant le nazisme et qui a écrit un carnet pendant toutes les années du nazisme, de 1933 jusqu'à 1945, où il notait au jour le jour, à la fois sa vie quotidienne, mais en même temps, comme il était philologue, des faits lexicaux qu'il prenait dans la rue, dans le parler commun, mais aussi dans la presse, etc., etc., dans la littérature officielle, etc., etc. Quelque part, la pièce de Shakespeare me renvoie d'une manière extrêmement poétique, à cette capacité du langage. Néanmoins, il y a bien une différence à faire. Shakespeare écrit exactement un poème, ce sont des vers, c'est de la littérature, il y a un tissage, il y a un travail, il y a un rehaussement de la langue, qui manifeste et qui donne à voir le propre pouvoir de la langue d'instituer le réel. D'un autre côté, le travail des nazis sur la langue vise exactement le contraire, mais dans la perspective d'Orwell. Néanmoins, on est tous capables de parler un peu novlang ou comme les nazis, sans toujours s'en rendre compte. Tout le monde sait ce que c'est que le tiers-monde. C'est-à-dire quoi, tiers-monde? Qu'est-ce que c'est qu'un sans-abri? Les demandeurs d'emploi. Il y a des tas de périphrases qui dissolvent la langue comme ça, et on ne sait pas trop où on en est dans notre rapport à la langue. Et ça, ce n'est pas du tout innocent, parce que c'est la manière que nous avons de faire exister notre monde. Je prends un autre exemple.
Il n'y a plus de chômeurs, ce sont des clients.
Voilà, des clients. Il n'y a plus d'usagers à la SNCF, il y a aussi des clients. On change les mots, on change les choses, ça veut dire. J'ai pensé aussi ce matin très tôt en venant à une thématique politique, de politique politicienne, le déficit du budget de la France. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je ne connais strictement rien, mais j'ai quand même le souvenir des élections présidentielles où on nous expliquait quand même à longueur de discours que le déficit était le truc le pire du monde. Que nous endettions nos enfants.
22 000 euros aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas combien de milliers d'euros étaient déjà débités sur un compte bancaire que les enfants n'avaient même pas ouvert, mais qu'on avait ouvert pour eux. C'était ça à peu près l'idée. C'est-à-dire que, bon, je passe sur l'idée que je ne suis pas si naïf que ça quand même en termes de philosophie politique et d'économie politique. Ça n'a pas du tout de sens de parler comme ça en termes de déficit pour le budget d'un État. Mais aujourd'hui, on ne tient plus du tout le même discours. La manière d'appréhender dans le discours le déficit de la France de la part de ce gouvernement en ce moment est pas du tout celle qui était là, qui avait lieu avant pendant les élections présidentielles. Je veux pas apparaître partisan. Je dirais aussi que par exemple récemment, il y a eu quelque part une main qui a parlé au Parti socialiste. C'est-à-dire qu'il y avait un certain discours tenu dans le Parti socialiste, puis à un moment donné, il y a une main qui parle. On bourre les urnes. Et après, on parle autrement. Et toute la vision politique à l'intérieur du système change. Et le parti existe différemment avant et après, mais par de seuls faits de discours, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le réel ? Dans le champ des existants, il ne s'est rien passé. On n'a pas transféré la rue de Solferino ailleurs, enfin, il ne s'est rien passé dans l'espace et le temps. Du coup, j'ai envie de dire qu'il y a deux façons d'utiliser la langue, au moins deux, mais sûrement beaucoup plus, disons au moins deux tendances. Une tendance, j'ai envie de dire basse, où en rabaissant les niveaux de langue, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais on supprime l'effectivité de la vie. Et il y a une autre manière de faire. Il y a une puissance dans la langue, une espèce d'alchimie qui fait qu'elle peut toujours transformer le plomb en or et réciproquement, qui est par la langue d'élever l'existence même. Et il me semble que l'écriture de Shakespeare est l'exemple, évidemment, d'une écriture qui nous élève. Et évidemment, quand on dit Shakespeare de manière publique, dans un lieu qui est fait pour ça, on tient une parole publique qui élève ce qu'il entend, et qu'à ce moment, rien qu'en respectant cette langue shakespearienne, et en profitant de sa chair, de son étrangeté, alors on fait un geste politique. C'est déjà un fort geste politique que de donner ça à entendre. Bref, voilà, ça me paraît être comme ça que le théâtre a une portée politique, notamment quand il s'intéresse à des textes comme le Jules César de Shakespeare. Merci de votre attention.
Merci.
Vos questions sont évidemment les bienvenues.
Simplement une petite remarque qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que après les deux grands discours au milieu de la pièce qui font tout basculer et que dans la deuxième partie de la pièce, effectivement, le langage se défait ou se refait pour créer un autre type de monde, en fait, qui un monde où n'existe que la lutte pour le pouvoir, disons-le comme ça. Et je pense qu'il y a en fait deux éléments dans la pièce qui symbolisent cette façon qu'a le langage dans la deuxième partie de la pièce à se défaire. Je pense à la troisième scène de l'acte 3, où c'est juste après les deux grands discours, Antoine effectivement a enflammé les Romains contre les conjurés. Ils sont tous partis à essayer d'attraper, de tuer, brûler, enfin, ils disent des choses horribles. Et donc, on arrive dans cette troisième scène qui vient après ce qui est en quelque sorte l'apogée de la pièce. et on retrouve dans la rue un dénommé Sina, qui est poète, et qui a la malchance, en fait, de porter le même nom
que
l'un des assassins. Enfin, il rencontre la foule le tue, et il dit, mais je ne suis pas Sina l'assassin, je suis Sina le poète. Et la foule dit, peu importe, on va le tuer pour ses mauvais vers. Voilà. C'est le premier point. Acte 4, scène 2. C'est au milieu de cette dispute entre Brutus et Cassius. Enfin, Brutus a encore fait une erreur de stratégie, cette fois-ci stratégie militaire. Cassius essaie de le lui dire. Ils sont en train de se disputer. Intervient un homme qui est caractérisé comme un poète pour leur dire d'arrêter de se disputer parce qu'en fait, cette dispute déshonore la cause pour laquelle ils sont en train de faire la guerre. Et donc Brutus, comme César au début avec le devin, il chasse le poète et il dit « What should the wars do with these jigging fools ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que les guerres ont à faire avec ces idiots qui font des rimes ?
Voilà. Mais avant ça, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup fait rire, enfin, j'ai trouvé une ironie vraiment superbe, c'est qu'à un moment donné, avant l'assassinat de César, Casca fait le récit de ce qui s'est passé au Forum. Et il dit à un moment donné, Cicéron a parlé. Cicéron, le grand rhéteur romain. Enfin, c'est, même encore aujourd'hui, les enfants veulent apprendre le latin, c'est Cicéron. Simplifié en sixième, moins simplifié en cinquième, et à la grecque de latin, c'est Cicéron. C'est quand même le monument. Mais il a parlé grec, parce que dans l'Antiquité, évidemment, la langue de la culture, c'est le grec. Et Casca, le meurtrier, dit, pour moi, c'est resté du grec. Je n'ai pas compris. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, rappelez-vous bien que Casca, c'est le meurtrier, et j'ai oublié d'y revenir, excusez-moi. Je suis très incohérent dans ce que je fais.
Non, pas du tout.
Et pour moi, oui, j'avais repéré cette... C'est bon, on ne peut pas tout dire, mais pour moi, il y a Casca avec Cicéron, et puis il y a cette déclinaison... qui sont quand même autant de pistes là, autant d'indices quand même assez clairs de ce que la pièce nous dit.
Mais pourtant la poésie c'est la parole aussi, mais elle n'a aucun sens pour eux. C'est pourtant la parole.
Je pense que c'est une question du respect qu'on porte à la parole. Voilà. Et quand on tue les poètes, comme quand on brûle les livres, peut-être comme quand on ne s'intéresse plus au latin et au grec. C'est le signe d'une dégénérescence, d'une dégénérescence politique.
Mais cette affaire, Sina, tu n'es pas Sina le conjuré, tu es Sina le poète, ça fait rien, tu as fait le mauvais vers. Enfin là, on se croirait vraiment dans des parties du XXe siècle qui nous font froid dans le dos.
Tout à fait.
Et là, je trouve qu'il y a un vif dans l'écriture de Shakespeare qui est vraiment...
C'est ce qu'a exploité justement Orson Welles dans cette mise en scène que j'ai évoquée dans les années 30. Cette scène avec Sina, le poète, était le centre qui montrait justement qu'on était rentré dans un système inhumain, finalement, inhumain. Où justement, la parole ne voulait plus rien dire, ou plutôt... La parole ne voulait que dire une idéologie.
Une idéologie, parce qu'Artemidon, le poète, il a quelque chose à nous dire.
Mais bien sûr.
Ils ont des choses à nous dire.
Bien sûr.
Ils sont niés.
Voilà. J'aime à penser que le rôle du poète dans Jules César avait été joué par Shakespeare lui-même.
Ça serait heureux de le penser.
Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur, pourquoi ? Parce qu'on est quand même en 1599. Et c'est vrai qu'on est dans le règne d'Elisabeth Ier, mais on est en fin de règne. Qu'est-ce qui va se passer quand la vieille dame meurt ? Elle n'a pas d'enfant, elle ne s'est jamais mariée. Et donc, la pièce a été écrite à une époque d'inquiétude assez importante, surtout parce qu'on savait que les favoris de la reine, notamment Exeter, par exemple, avait déjà réfléchi à un assassinat. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que quand Exeter prépare le coup d'État, il le commence en faisant jouer Richard II, où on a la démission d'un roi. C'est la raison d'ailleurs pourquoi la scène de la démission du roi d'Henri II a été censurée pendant 2 siècles dans l'histoire du théâtre britannique. Et Exeter tue, d'ailleurs, parce qu'on l'a arrêté avant qu'il puisse passer à l'acte. Donc, la pièce est elle aussi peut-être écrite à une période charnière. Mmh. On est à la fin du mythe des Tudors. Et qu'est-ce qui va suivre à ce mythe? Cette idée que les Tudors ont créé, ont sorti l'Angleterre du Moyen-Âge et ont créé l'État moderne. Qu'est-ce qui va suivre après la dernière des Tudors? Ben, on le sait, un roi Stuart, dont le fils déjà va être exécuté par les Puritains. Donc on est à 40 ans de la Révolution. Donc, dans ce sens-là aussi, je pense que la pièce est pleine de réverbérations politiques et peut-être révolutionnaires.
Mais la magie de ce diamant, c'est que justement, ça réverbère aussi par rapport à
la nôtre époque.
Par rapport à, voilà, quand on dit...
Et peut-être pour ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, quand je mentionne la révolution puritaine, il faut savoir que la première chose que les puritains ont fait, c'est de fermer les théâtres. Et pendant que Shakespeare compose Jules César, ils ont déjà fermé les théâtres tout le temps. C'est-à-dire le travail théâtral pendant l'époque de Shakespeare les acteurs ont été embêtés par la municipalité de Londres qui était dominée par les puritains tout le temps. C'est l'une des raisons pour lesquels les troupes de théâtre ont quitté la ville de Londres pour jouer ailleurs. C'est aussi pour des raisons d'hygiène. Hein, et de... Mais voilà.
Voilà, écoutez, merci.
Ben, merci à vous d'être venu partager un moment de réflexion avec nous. Et puis, je ne sais pas si Anne n'est plus là. Pour remercier aussi les gens du CDN ici qui vous permettent de nous rencontrer.
Voilà, ils nous ont invités, nourris.
Oui, c'est vrai. On vous remercie surtout tous les trois.